Avant de lire, j'aimerais parler juste un peu du livre parce que pour moi, c'est bizarre cette journée comme ça. J'expliquais tout à l'heure à Valérie, je pensais que le soleil allait se lever différemment ce matin. Et puis en ouvrant la fenêtre, je me suis rendu compte qu'en fait, le soleil s'est levé exactement de la même façon. Et c'est au courant de la journée que je me suis rendu compte que, ouais, aujourd'hui, c'est quand même un peu particulier pour moi. Parce que Alexandre, lui, il a l'habitude, hein, apparemment. Pour moi, c'est tout nouveau, cet exercice. Et donc, je vais faire une lecture tout à l'heure de deux passages, parce que l'Enfant du miracle, je voudrais vraiment préciser ceci. C'est un roman qui se déroule sur deux grandes. Je veux dire, c'est deux grandes régions géographiques, une en Afrique et puis une autre en Europe. Et j'ai pensé qu'il était très important de pouvoir justement tenir deux extraits différents comme ça. Ne vous inquiétez pas s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, parce qu'il y a assez de noms africains, il y a des mots bizarres, mais prenons ça comme ça. Silence total. Maniambe s'approcha de la vieille en larmes. D'un geste de la main, il ordonna que le cordon fût coupé, ce qui s'y fait d'un cran à l'aide du vieux couteau rustique par Ma Ebola. Il sortit de je ne sais où un morceau de tissu noué contenant une poudre rouge pareille à de la poudre de l'argile rouge ou de la poudre de piment séché. Il prit une pincée de cette poussière et l'introduisit dans les narines et la bouche du mort-né que Maloko tenait toujours entre ses mains dodues. Une fois la poudre délicatement appliquée, il prit l'enfant, le caressa, lui caressa le visage, sourit d'un sourire indolent, puis éleva l'enfant vers le ciel. Dehors, à ce moment précis, les nuages sombres qui occupaient déjà le ciel du village ce soir se rapprochèrent, se serrèrent, s'emboîtèrent comme s'ils voulaient lutter coude à coude contre un élément intrus. La nuit fut noire, plus noire d'un noir aveuglant. La grande flamme tarit et il ne restait plus que des braises ardentes dans lesquelles finissaient des moustiques idiots. Un vent ne put passer malgré lui inaperçu, tant il était violent. Le vent fut si violent que les mères serrèrent bien leur bébé endormi dans le dos. Les jeunes hommes essayèrent de protéger les femmes et les plus âgés. Eboa, le psychanalyste, s'occupa personnellement du vieux Olango. Les villageois, à l'entrée de la case, continuaient de se demander ce qui se passait à l'intérieur. Ils n'avaient pas droit d'accès dans cette salle d'accouchement, même pas le chef du village. Un autre vent, violent et nain, passa d'un seul coup. Il s'enfuit sans rien revendiquer. Il était presque bénin. Un autre lui succéda encore, cette fois-ci moins généreux. Il s'empara sauvagement de la piètre toiture d'aluminium de la case de Maloko. Le ciel se fit tout à coup creux et bouillonnant. Un tourbillon profond et d'une noisseur dévorante, épouvantablement vorace, s'abattit sur la petite pièce où siégeait Maniambe, le fils de Dieu, là, le nourrisson élevé vers les cieux mornes et le Big Mama ahuri. Une foudre maléfique en surgit et frappa la salle d'accouchement sans pour autant la fracasser ni toucher ses occupants. Ma mère ouvrit faiblement mais clairement ses yeux. Elle voyait tout ce qui s'y déroulait comme dans un songe. Elle voulut demander son petit, mais sa gorge était si sèche qu'elle ne put rien prononcer. Les coassements gênants des crapauds se firent de nouveau entendre. D'énormes et affreux coaquas retentirent de toutes parts et l'abondance de leur écho laissait croire qu'un fou était pris d'assaut par ces vilains anours. Peste! Quelques lucioles paresseusement incandescentes voltigèrent un tour puis disparurent, silencieuses, une fois de plus vaincues par les ténèbres de l'instant. Un enfant, réveillé par les coassements incessants provenant des marécages, pleura. Sa mère lui dalla net la gueule, effrontée. Malgré la peur qui régnait, Amidou le Haoussa, lion chasseur de proies féminines, ne s'empêcha de vérifier dans les alentours si un cul féminin était libre, prêt à l'accouplement. Mais rien à faire, Amidou. Les filles étaient toutes apeurées et les jambes bien serrées. Une conne troisième se recroquevilla au pied de la porte principale, les mains sur les oreilles et la tête entre ses cuisses. Sur ses cuisses fébriles, s'évanouit pesamment en une fine lame au contour sinusoïdaux, un liquide dont la tiédeur la fit pâlir de honte. C'était l'urine. Elle pissa sur elle. Deux oiseaux au plumage noir planaient là-haut, tout haut, dans les parois effroyables du creux nuageux qui s'était abattu dans la salle d'accouchement dépourvue de toiture. Ces oiseaux ressemblaient à des corbeaux. Dans la maisonnée, le Big Mama s'était littéralement fermé les yeux à l'aide de leurs mains dodues. Seul Maloko les avait gardés bien ouverts pour ne plus manquer les détails de l'histoire. Maniambé ne lui jouerait quand même pas plusieurs tours de suite. Il fallait qu'elle soit témoin de l'histoire cette fois-ci. Quant à ma mère, elle vivait le tout comme un rêve lointain. Maniambé se tenait au centre du tourbillon géant. On pouvait l'apercevoir à travers les parois de celui-ci. Les deux oiseaux drôlement semblables à des corbeaux planaient toujours au-dessus de leur tête à l'intérieur du tourbillon. Maniambé murmura quelques mots inaudibles. Oh, que Maloko connaissait ses manières! Elle ouvrit encore bien les yeux mouillés de larmes pour ne rien manquer. Pourtant, le Fils de Dieu n'entra pas en transe comme se l'imaginait ma grand-mère, se remémorant de cette longue nuit où elle et sa fille étaient allées visiter ce sorcier pasteur pour lui demander ce fils qui était maintenant mort entre leurs mains. Le sorcier pasteur murmura encore quelques mots décidément inaudibles, et hop, c'était parti. Il enchaîna des ribongo shangirande maranchuka, ribongo shangirande maranchuka. Il tendit tout haut l'enfant, et celui-ci semblait absorbé par le tourbillon féroce. Les deux oiseaux noirs battirent légèrement leurs ailes sur le visage du nourrisson, puis posèrent délicatement leurs pattes sur son ventre, sans l'écorcher. Encore un peu de glossolalie incompréhensible, « Ribongo, Shangrande, Maranchukae !» L'enfant bougea le pied gauche. Il bougea le pied droit, puis agita ses petits poings de nouveau-né avant de crier. Il cria et pleura. L'enfant vint au monde. Je vais m'arrêter là pour cette partie de l'enfant du miracle qui parle en fait de la naissance même de cet enfant miraculeux. Pour la partie lausannoise. Avant de pénétrer le grand amphithéâtre 1031 où se tenait le grand meeting, Et Ango prit le temps de parfaire son maquillage à la poudre L'Oréal de Paris et de s'imbiber de quelques jets de parfum pour femme Dior. J'adore. Il devait se faire coquet pour son homme. Il devait voir son Simon, alias Beauvais, crier un discours tordu de rêverie sur une tribune de fortune et sous les ovations d'un auditoire inondé de rêveurs. Dans la salle, j'aperçus en premier la tronche grévisse de Julia, l'italienne. Elle était en tête de file. Romina la Péruvienne et Paula l'Allemande étaient aussi en première ligne. Elles avaient le visage plus relaxé, plus tranquille que celui de Julia. Étaient-elles devenues, elles aussi, des anti-Bologne? S'étaient-elles converties au mouvement du révérend Beauvais? Au bon milieu de la salle, je pus repérer la calvitie naissante d'Hubert, le franco-suisse. Je pensais machinalement que s'il avait choisi de s'installer au bon milieu de l'auditoire, c'est parce que il se sentait plus suisse que français en ce moment précis. Il se sentait en fait neutre. Après avoir balayé toute la salle de mon regard curieux, je ne réussis pas à apercevoir Giuseppe l'Espagnol. Je savais qu'il ne viendrait pas, car un fleuve de sangria coulait en ce moment même quelque part à l'EPFL, dans une fête organisée par les étudiants Erasmus espagnols. Ces étudiants-là avaient pour devise boire, boire et boire. Ils ne faisaient que ça, boire et faire la fête. Je les admirais. Christian, l'Australien, était aussi absent. Je me dis qu'il finirait par venir plus tard. Il viendrait quand même, au risque de se faire traiter de sournois par Yango, et donc de. Tout près de moi, à ma gauche, car à ma droite se trouvait Yango, les pieds délicatement croisés et les lunettes de soleil, Giorgio Armani toujours perché sur son nez pointu, je reconnus la fille rousse, aux yeux étouffés, épais de cernes, celle qui s'était lamentée dans le métro M1 quelques semaines plus tôt de ce que l'amphi 1031 avait été confisqué sans son aval. Elle était donc là, cet après-midi, pour donner son avis sur toute décision à prendre. Plus rien ne se fera désormais sans elle. Plusieurs personnes présentes martelaient ce mot d'ordre dans leur cœur. Plus rien ne se fera désormais sans nous. Les camarades de la fille rousse étaient aussi présents. Le garçon grassouilleux aux cheveux pris en queue de cheval et celui nonchalant à la casquette contrefaite de Chicago Bulls NBA. Il devait être un jamais sans ma casquette. Sans doute y dissimulait-il une calvitie précoce, très précoce. Je vis dans un coin de la salle le garçon punk qui m'avait effrayé la première fois que j'avais osé pointer mon nez dans cette assemblée estudiantine où l'on rêve d'un monde arc-en-ciel, arcobaleno. Il avait le visage aussi agressif que la première fois où je l'avais rencontré. Comme à ses principes, il était resté fidèle à son style. Crête bien gelée et colorée de vert, corps sali de tatouages grotesques et mutilé d'innombrables piercings. Quelques minutes encore, et l'auditoire était plein à craquer. Il était vraiment occupé cet après-midi. Ça grouillait de monde dans tous les coins. Un bourdonnement assourdissant s'empara de la salle. Manifestement, il n'y avait pas que des anti-Bologne. Leurs adversaires avaient répondu à l'appel, car ils étaient, comme tout le monde, convaincus que plus rien ne se fera désormais sans eux. C'était le mot d'ordre. Tout le monde voulait participer. Un nombre non négligeable d'étudiants HEC, c'est-à-dire Haute École de Commerce, et de Faculté de Droit, s'étaient amenés. Ils étaient les étudiants les plus pénalisés par l'occupation décidée à huis clos de l'auditoire 10-31, car un bon nombre de leurs cours s'y tenaient. Ces étudiants, HEC et droit, avaient fait bloc dans l'aile droite de la salle pendant que les braves anti-Bologne, pour la plupart étudiants en lettres et sciences sociales et politiques, SSP, s'étaient contentés de l'aile gauche. On se serait cru dans un hémicycle parlementaire. La gauche contre la droite. Simon alias Beauvais, valeureux représentant de la gauche faite des partis SSP et Lettres. Les partis HEC et Droit s'étaient trouvés une représentante, une fille fine et sèche dont j'ignorais le nom. Gauche contre droite. Personne n'avait la majorité parlementaire et la bataille s'annonçait suffisamment ardue. Ouf! On se demandait tous qui de Beauvais ou de la fille fine et sèche réussirait à s'attirer vers son camp quelques voix supplémentaires afin de constituer une majorité parlementaire. Beauvais prit la parole. Il tira un air grave et nerveux que même les plus redoutables dictateurs de ce monde, comme Muammar Kadhafi, n'affichent jamais. Il fit une minute de silence et la profondeur scabreuse de son regard tamisa progressivement le bourdonnement qui régnait dans la salle au point de le taire. Tout était calme. Un instinct me chuchota qu'il y avait du leadership dans les manières du représentant de la gauche. Et Yango, c'était vraiment décrocher un vrai chef, un vrai morceau de fer. Après s'être longuement étalé sur les multiples approches sociologiques et philosophiques de l'éducation, ce qui ne manqua pas de faire bâiller plus d'un étudiant dans la salle, Beauvais fustigea les dérives d'un système universitaire qu'il qualifia violemment de capitaliste bourgeois. Ce terme, capitaliste bourgeois, il le prononça tellement que j'avais peur que l'on transformât son nom de Beauvais à capitaliste bourgeois. Évidemment, comme dans tout hémicycle parlementaire, Beauvais était applaudi par ses sympathisants, pendant que ses détracteurs, quant à eux, le huaient. Ouh! Ouh! Les sifflets tonnaient de l'aile droite de la salle, et le bourdonnement réapparut lorsque Beauvais laissa le pupitre à sa collègue de droite. La fille fine et sèche, aux lunettes trop lourdes pour son visage de souris, prit la parole. Comme elle était légèrement débonnaire et surtout femme, elle mit un peu plus de temps à faire taire le bourdonnement accablant. Elle dut tapoter dans le micro pour réclamer le silence de l'assistance. La fille de droite alla droit au but, sans trop de formules aussi angoissantes qu'agaçantes. Elle se lança directement dans un discours impitoyable et ferme, condamnant le bébéisme intellectuel et des attitudes d'étudiants glandeurs qu'elle qualifia d'ailleurs de folie du fatalisme. La folie du fatalisme est un mal grave de notre génération, dit-elle. Il est temps ou jamais de le soigner. Les membres des partis HEC et droit se levèrent mécaniquement pour ovationner la représentante. Ils applaudirent tellement qu'ils dépassèrent le temps prévu pour cette mise en scène parlementaire. Cet abus de temps agaça les partisans de Beauvais, qui semblaient se reprocher de n'avoir pas assez applaudi leurs représentants. Ils se mirent alors à huer la fille fine et sèche. « Bouh ! Bouh !» Cette dernière rassembla quand même tout ce qui lui restait de ses forces pour conclure en enjoignant une fin immédiate de l'occupation de la 1031 et un enterrement pur et simple des revendications qu'elle jugeait d'ailleurs culottées et fatalistes. Moi, je me permets de rire. Les expressions « capitaliste bourgeois » et « folie du fatalisme » sautillaient dans ma cervelle. Et loin de me faire réfléchir, elles me faisaient rire. Je ne savais pas de quel côté me ranger. Étais-je de droite? Étais-je de gauche? Je pensais rejoindre bientôt tonton Hubert dans son centre très neutre. Un centre comme les autres. Un centre pas comme les autres. Un centre qui ne donne son avis sur rien du tout. Un centre muet, observateur et rieur. Voilà.